France Culture.
Regardez, c'est Spider-Man. Baissez d'un ton, civil innocent, il est interdit de faire du bruit en ville. Stan Lee et Spider-Man, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'immergera ce soir dans l'univers des comics Marvel. Depuis 1961, un autre affrontement bloc contre bloc régit la politique américaine, imaginaire et graphique pour le coup. DC Comics, le monde de Superman, Batman, contre celui de Marvel Comics, l'univers des Fantastic Four, Spider-Man ou Daredevil. C'est à cet univers humaniste, protéiforme et super-héroïque qu'est consacrée une superbe et fort éclairante exposition à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Ses commissaires Xavier Fournier et Jean-Philippe Martin nous ont radioguidés au fil de plus de 65 années de création graphique. Chronique en second temps d'émission, signée Antoine Guillot. Alice au pays des Marvel, c'est ce soir dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre. D'habitude, nous descendons à Angoulême fin janvier pour le Festival international de la bande dessinée. Mais cette année, Antoine Guillot a décidé de casser les codes et nous descendons, ma foi, au mois de septembre.
C'est déjà septembre, d'autant que cette année, rappelez-vous, nous n'étions pas vraiment descendus à Angoulême.
Non, c'est vrai.
Donc, on monte à Angoulême, on ne descend pas.
Ouais, pardon.
Vous le savez bien.
Autant pour moi. Alors cette année, donc, superbe exposition Marvel, super-héros et compagnie. 90 artistes, 170 planches originales et puis surtout une très belle exposition pédagogique et initiatique, on peut le dire.
Oui, et puis très, très, très intelligente. C'est pas souvent qu'on a des cartels aussi bien écrits, aussi précis, qui permettent de trouver précisément le chemin dans cette diversité graphique quand même extraordinaire que sont les comics Marvel depuis au moins 60 ans. Alors l'exposition ne commence pas aux origines, mais commence à ce moment où Marvel devient Marvel, c'est-à-dire le moment où, contrairement aux concurrents d'en face, on ne raconte pas le monde tel qu'il devrait être ou tel qu'on craint qu'il ne soit, mais le monde tel qu'il est.
Voilà, donc une bande dessinée réaliste et ancrée dans le quotidien américain. Alors, eh ben, il est temps de s'aventurer dans le Marvel World. Antoine Guillot, êtes-vous prêt ?
Oui, fin prêt. J'ai revêtu mon armure étincelante. J'ai révisé tous mes pouvoirs, mes mutations et mes névroses.
Moi aussi, j'ai testé mes capacités surnaturelles. Nous sommes donc en capacité de pousser les portes de l'univers Marvel. Et voilà qui est fait. Bonjour Xavier Fournier, plutôt rebonjour, puisque vous aviez déjà été l'invité de Mauvais genre il y a bien longtemps sur l'origine lointaine des super-héros. Donc heureux de vous retrouver.
Eh ben rebonjour, mais vous avez de longues journées dedans. Hein.
Bonjour Jean-Philippe Martin.
Bonjour.
Comme on dit, vous êtes le régional de l'étape, c'est-à-dire quelles sont vos fonctions ?
Alors moi, je suis le conseiller scientifique de la Cité de la Bande Dessinée. Je suis un petit peu le monsieur bande dessinée de cette maison.
Et bonjour Antoine Guillot.
Bonjour François Angelier.
Alors cette exposition Super-héros et compagnie, l'art des comics Marvel, comment est-elle née ? Et puis, pouvez-vous nous parler surtout des richesses qui l'ont rendue possible, c'est-à-dire à la fois d'un legs de la société Marvel elle-même et puis d'emprunts à toute une série de collectionneurs avisés en France et ailleurs ?
Alors maintenant, on peut considérer que je suis d'une certaine manière la mémoire de cette maison. Et effectivement, je peux me rappeler cette période où, il y a donc une vingtaine d'années, Marvel nous a fait don d'un nombre assez impressionnant de fascicules, de revues. Alors, pour la petite histoire, quand on a été contacté, donc il y a 20 ans, par la société Marvel, pas exactement par Marvel d'ailleurs, une société chargée de redistribuer des collections, d'amples collections, et de le faire auprès d'institutions, mais qui ne sont pas des institutions américaines. Une société qui s'appelle Gift and Kinds. Et donc, quand celle-ci nous a contacté pour nous proposer ce don, on a eu un peu de mal à y croire au tout début, puisque la personne au téléphone nous disait, bon, il s'agirait d'un don. Alors au départ, on n'avait pas bien compris si c'était les archives ou quoi. Et surtout, elle nous dit, puis c'est évalué à peu près 1 million de revues. Et donc là, bon, on a vraiment pensé qu'il s'agissait d'une blague, de quelqu'un qui nous jouait un mauvais tour. Et puis, quand on a été assuré que ça n'en était pas une, que c'était vraiment une offre très sérieuse, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a la capacité de recevoir 1 million de fascicules ? Il faut se représenter. Enfin, on a même du mal à se représenter ce que ça peut être. Et puis, après discussion, on a dit, bon, allez, ça, on avait vraiment envie de ce don. On a transigé à environ 500 000 copies. Et puis, au final, donc, ce sont 400 000 revues qui s'étalent depuis les années 50, je dirais, jusqu'au début des années 90, qui sont arrivées un beau matin en container ici à Angoulême.
Ça, c'est bizarrement à la fin de l'exposition qu'on va les voir, quelques-uns des 400 000 exemplaires que vous avez conservés. Mais on entre dans cette exposition un peu par la tarte à la crème, on dirait, de l'univers Marvel. C'est-à-dire que nous avons des personnages en silhouette, bien connus maintenant des visiteurs, probablement beaucoup plus en raison des films qu'en raison des bandes dessinées. On a là Iron Man, Captain America, Hulk, la Veuve Noire et Black Panther. Et surtout, derrière, une fresque avec... Alors, je ne sais pas s'il y a 400 000 personnages, mais il n'y en a pas loin quand même, parce qu'il y a une multitude infinie. Et cette exposition, où c'est bien précisé que c'est librement inspiré par l'univers Marvel, c'était trouver un chemin, j'imagine, dans ces personnages et trouver une approche, je dirais, critique de cet univers pour en faire rejaillir au-delà du folklore presque de personnages bien connus aujourd'hui, les processus créatifs, Xavier Fournier.
Bah, vous avez raison, c'est une tarte à la crème l'entrée dans cette exposition. À plus forte raison, on a voulu une sorte de couverture, on traverse une masse de couverture pour rentrer dans l'univers Marvel, mais il est clair qu'on pourrait se demander d'ailleurs... À l'heure où Marvel fait des milliards de bénéfices avec des Avengers Endgame ou des Deadpool Wolverine, est-ce que c'est bien le moment d'essayer de faire découvrir cet univers qui finalement est surconnu ? Mais c'est un faux ami. Parce que je dis toujours que moi, c'est un peu comme si je croisais des gens qui me disaient « Je connais les Trois Mousquetaires, j'ai vu le film ». Et à plus forte raison, c'est peut-être au moment où les films occupent le haut de l'écran, c'est le cas de le dire, qu'il faut rappeler qu'il y a... Il y a une logique artisanale à tout ça. Il y a des artistes derrière ces créatures, ces inventions, ces pages. Et c'est un petit peu rendre à César le fait que cet univers, il était construit par des petites briques, par des petites planches, par des BD qui, à l'époque, étaient considérés sans lendemain, sans gloire, et des artistes qui étaient payés à coups de lance-pierre. Donc, effectivement, on a on va dire qu'on accueille le grand public qui connaît surtout les films. Et puis, bien entendu, on accueille les lecteurs de BD qui connaissent un peu plus. Mais on accueille cet espace, ce premier espace, et c'est une sorte de réglons nos montres. Synchronisons nos trucs. Et le grand mur dont vous parlez, où il y a effectivement une horde de personnages, c'est aussi une manière de montrer aux gens que, au-delà des personnages qu'ils connaissent par les films, il y a une armée de personnages Marvel et que c'est vraiment un continent à découvrir et dont on s'occupe dans les pièces suivantes.
La maison Marvel a toujours aimé mettre en scène ses origines. Régulièrement, il y avait des numéros où on recyclait des bandes dessinées anciennes et on montrait d'où ça venait. Et cette deuxième salle dans laquelle nous entrons, c'est précisément l'origine. C'est-à-dire, nous sommes dans les bureaux de Marvel sur Madison Avenue. En tout cas, sur les bureaux tels qu'ils étaient en 1964. Et ce qui est très frappant quand même dans votre exposition, c'est qu'on n'a pas l'origine, c'est-à-dire les créations des personnages emblématiques dès 1939, les Submariners, plus tard Captain America, la Torche, première manière. Vous êtes un peu comme dans l'exposition qui se tient en ce moment au Centre Pompidou, dans l'âge de la modernité. On est en 1964. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce départ pour l'exposition ?
Bon, l'âge de la modernité, il y a des gens sans doute qui vous diraient que 60, les années 60, c'est pas moderne pour eux, mais le fait est que on a souvent l'habitude de réduire, par exemple, les rapports DC Comics, qui est le grand concurrent avec Batman, Superman et compagnie, et ceux de Marvel à une guerre qui durait depuis 85 ans. Or, Marvel, dans les années, fin des années 30 et début des années 40, c'est un petit éditeur qui a quelques succès épisodiques, et on peut parler en particulier de Captain America, mais globalement, c'est pas une force motrice dans l'industrie de la bande dessinée américaine à ce moment-là. Et d'ailleurs, dès lors que la Seconde Guerre mondiale est passée et que donc Captain America est considéré comme passé de mode, les ventes s'effondrent petit à petit. Et c'est une société qui d'ailleurs, la petite histoire voudrait que Martin Goodman, le propriétaire de Marvel, ait envoyé deux fois des ouvriers à la fin des années 50 pour vider les bureaux en disant c'est bon, on ferme, il y en a marre, et que Stan Lee, qui était son cousin par alliance, les suppliait de laisser d'autres chances. Donc effectivement, nous, on s'intéresse, je dirais, non pas à la modernité, mais au moment aussi où Marvel est devenu une parabole et s'est intéressé à dire beaucoup plus de choses. Et ça intervient au tout début des années 60, avec un matériel qui, d'un seul coup, dit beaucoup plus de choses sur la société américaine. Moi, je me suis dit qu'il allait y avoir des publics très différents qui allaient venir dans cette exposition. Parfois, des publics qui connaissent surtout la franco-belge, parce qu'on est dans un musée qui l'a fait découvrir depuis des décennies. Et je me suis dit qu'il était intéressant de montrer à ces gens-là que c'est pas que des histoires de gens qui volent. Et que ce sont des paraboles.
Et puis, histoire de poser les bases aussi d'emblée en face de ce tableau sur les bureaux de Marvel, vous avez la Marvel Way. Alors, la façon Marvel de créer de la bande dessinée, là aussi, c'est important, Jean-Philippe Martin, de poser dès le départ ce qu'est ce processus créatif qui est très, très singulier, très propre à Stan Lee aussi, qui s'est beaucoup arrogé, on le sait, le rôle d'inventeur, créateur de tout, de toutes les histoires et de tous les héros. C'est plus compliqué que ça.
Alors l'idée, c'était pas de défaire le mythe Stan Lee qui est à l'origine de toutes les histoires et dont le nom d'ailleurs apparaît sur toutes les couvertures, mais de rétablir la manière dont cette caractéristique, cette particularité de concevoir les histoires, de concevoir les séries, à commencer par les séries qui vont devenir très emblématiques, qui vont d'une certaine manière coloniser l'imaginaire collectif avec les années, par cette expression, cette mise au point sur cette manière de travailler et de concevoir les séries. Mais Xavier peut en dire un peu plus et mieux.
Oui, la Marvel Way, pour dire, Stan Lee avait trouvé une bonne manière de travailler pour lui, qui était de donner une sorte de 5 minutes avec le dessinateur en début de semaine autour d'un café ou dans son bureau, pour lui expliquer que dans le prochain épisode, c'était un extraterrestre à 5 bras qui allait débarquer et attaquer une banque, et ou autre chose, et le dessinateur retournait chez lui, faisait un épisode de 22 pages, qui est à peu près la longueur moyenne d'un comic book, une vingtaine de pages. Et puis, revenait avec l'histoire entièrement dessinée, mise en scène, et Stan Lee n'avait plus que les dialogues à écrire. Maintenant, une fois que c'est raconté de cette façon lapidaire, c'est quand même intéressant, parce que quand vous vous intéressez vraiment à Marvel, vous savez que le phrasé des personnages a son importance. Docteur Strange qui lance des incantations, ça dicte des histoires par la suite, parce que si Stan Lee, dans un moment de aérien, a créé un démon, va falloir expliquer qui est ce démon. Vous avez aussi le phrasé de Peter Parker, qui est le phrasé de Brooklyn. Vous avez le phrasé de la chose dans les Quatre Fantastiques. C'est-à-dire que les Marvel parlent en anglais, en américain des rues. Et ça, c'est la petite touche de Stan Lee. Petite touche, mais touche importante, parce que ça fait la différence. On voit certains de ses collaborateurs qui, derrière, ont voulu faire carrière et n'ont pas eu le même succès. Moi, je compare souvent ça à la situation d'Alexandre Dumas avec Auguste Maquet. C'est-à-dire Alexandre Dumas, alors toute proportion gardée, bien sûr, mais Alexandre Dumas n'a pas écrit une bonne partie des livres qu'on lui prête. C'est Auguste Maquet et d'autres collaborateurs qui se sont tapés le boulot. Et Auguste Maquet avait fait un procès à un moment, d'ailleurs, pour récupérer le droit de pouvoir faire des suites à ses romans à succès. Bah, les suites qu'il a fait, elles se sont écrasées un petit peu dans le désintérêt général, parce qu'il n'y avait pas cette petite pastille qu'amenait Dumas, en disant non, ce chapitre-là, faut le réécrire. Ah, puis tiens, je tuerais bien ce type-là à cet endroit-là. Et ben, la contribution de Stan Lee, elle fait la différence. Même si il faut retenir vraiment de la Marvel Way, de la méthode Marvel, que le dessinateur est au bas mot co-scénariste, si ce n'est pas carrément le scénariste.
Mais c'est aussi le grand metteur en scène. C'est-à-dire que c'est une narration qui avance par la pure mise en scène et par l'invention graphique du récit. Qu'est-ce qui s'invente dans ces premières années qu'on retrouvera tout au long de l'histoire de la Marvel, avec des grands anciens comme Jack Kirby, Steve Ditko et autres? Est-ce qu'il crée véritablement un langage nouveau dans la narration en image, qui sera un peu forcément repris ensuite par tous les successeurs, parce que ce sera, là encore, The Marvel Way of Comics.
Il y a certainement une dimension graphique d'innovation, quoique au tout début, je ne suis pas sûr. Enfin, ça, je parle sous le contrôle de Xavier. En revanche, ce qui semble, et finalement, c'est aussi une manière de répondre à la question qui était posée tout à l'heure sur pourquoi le choix des années 60, c'est sur les thématiques qui apparaissent au fil pratiquement d'ailleurs des premières histoires, qui sont, je dirais, un peu en rupture avec la manière dont dont les super-héros jusqu'alors, donc Superman, Batman, aborder les problématiques de société, comment ils vivaient leur super pouvoir. Enfin, j'ai pas le souvenir que Superman, dans une aventure, se soit plaint d'avoir des super pouvoirs. C'était naturel. Alors que ce qui me frappait, moi, qui n'ai pas été un lecteur par exemple, des premières histoires de Spider-Man dans les années 60, qu'il a découvert bien après, qui était donc moi qui étais jeune lecteur, ce qui me frappait, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir m'identifier, de pouvoir me projeter au fond dans Peter Parker, parce que les problématiques qui étaient les siennes, même s'il était un peu plus vieux que moi à l'époque où je lisais, c'était de savoir comment il allait boucler la fin de mois, comment il allait payer ses études, ses amours de classe, etc. Évidemment, beaucoup de choses qui marquent la différence de Marvel par rapport aux autres, mais cette apparition de thèmes, cette apparition de la société au fond dans la bande dessinée dès cette époque me paraît être un marqueur.
On a parlé tout à l'heure du fait que dans l'après-guerre, les ventes de Marvel un peu se sont tassées. Et en particulier, il m'a semblé intéressant d'expliquer dans un espace. Donc les espaces sont organisés souvent dans des modules de quatre planches qui montrent un petit peu des façons différentes d'accueillir un même sujet. Et donc dans les années 50-60, Marvel faisait beaucoup de thèmes, traitait beaucoup de thèmes. Il y avait le western, la guerre, mais il y avait aussi beaucoup d'histoires de monstres et des anthologies qu'on pourrait comparer un petit peu à une sorte de quatrième dimension de Twilight Zone avant l'heure, ou plus simplement des films de série Z qui pouvaient se faire à l'époque. Et donc en 6 ou 12 pages, un monstre géant venait débarquer à New York et un pauvre humain devait le renvoyer dans son monde d'origine et sauver la Terre. Donc ils ont sorti des centaines d'histoires comme ça. Et au moment de créer en 61, après la demande de Martin Goodman, le patron de Marvel, qui voyait bien les ventes des super-héros décoller, qui leur a dit « faites-moi du super-héros à nouveau », ils ont créé une série qui s'appelle « Les 4 Fantastiques »,« Fantastic Four ». Or, dans les 4 Fantastiques, et avec cette méthode de Marvel Way dont on a parlé tout à l'heure, Jack Kirby, lui, il récupère beaucoup d'idées qu'il a pu utiliser dans d'autres BD précédentes, et en particulier dans le Quatuor de héros, il y a un monstre qui s'appelle La Chose, et donc qu'on croirait fait comme une sorte de mur de briques humain. Et c'est une transformation, parce que il faut bien comprendre que chez la concurrence à l'époque, Superman ou Batman, ce sont des héros hollywoodiens, ils ont des physiques d'acteurs. Le beau est bon, le laid est mauvais, inversement. Chez Marvel, on va plutôt partir sur des outsiders, et le gars qui est un héros, mais qui n'a pas le physique du héros, n'est pas reconnu par l'opinion publique. Et c'est souvent mis en scène dans les histoires de Marvel. Et donc, on va partir vers quelque chose qui est un brin plus cynique et plus réaliste en même temps. Pour vous donner un exemple, dans les DC Comics, longtemps, quand Superman apparaît au-dessus de Metropolis, les citoyens de Metropolis ont pour habitude de dire « c'est un avion, c'est un oiseau !»« Ah non, c'est Superman !» et ils l'admirent passant dans le ciel. Et il y a un épisode de Marvel, je crois que c'est un épisode d'Iron Man, qui commence, on voit la foule qui regarde le ciel, et ils disent « ah, regardez, c'est un avion, c'est un oiseau !»« Oh non, c'est encore un connard de super-héros !» Et ça montre bien toute la différence de philosophie qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que les héros de Marvel sont des grandes gueules, ils sont en contact avec la rue new-yorkaise, ils parlent comme des New-Yorkais, et il y a ce côté un petit peu, si c'était vrai, dans la vie, des héros monstrueux comme ça ne seraient pas adulés.
La complexité de l'univers Marvel, c'est un petit coin où nous sommes, de cette salle très graphique, où d'un côté, on aura l'aspect le plus déconnant de Marvel, capable de se moquer de lui-même, où le what if devient presque un what the fuck, et où on a des personnages comme Howard the Duck ou Spider Cochon, voilà, qui a été réintégré maintenant dans l'univers, dans le Spider-Verse, mais on a en face... Peter Parker, et on a juste à côté un des héros les plus mélancoliques d'un univers qui l'est foncièrement mélancolique. Moi, je suis très frappé, très souvent dans les images qu'on voit, il y a de l'angoisse qui transparaît, ou de la mélancolie profonde qui est symbolisée par le surfeur d'argent, évidemment, le héros qui est dans la déploration permanente des horreurs du monde et de la galaxie, et avec ce dessin inédit, alors là je pense un des trésors de ce que vous montrez de Jack Kirby, qui voit à travers les siècles le surfeur d'argent voir un mur des fusillés, parmi lesquels il y a un rabbin, on le notera, d'assister à une scène de violence conjugale, d'un accidenté de la route avec des lits de fuite ou d'un asile psychiatrique. Il y a quand même très foncièrement dans la Marvel ce sentiment du tragique de l'histoire. On le verra plus tard avec les X-Men et Magneto, le survivant des camps de concentration qui décide de dominer le monde pour sauver sa race. Il y a cette histoire-là, foncièrement, dans l'ADN même de la Marvel.
Bah, là où vous aviez raison tout à l'heure, c'est vrai qu'on a fait un peu l'impasse sur les années 30 et 40, et c'est tout à fait assumé de notre part, mais si on avait fait une salle représentant ces années 30, on aurait sans doute quelque chose qui serait plus gloriol. Captain America serait plus le torse bombé. Là, il faut quand même rappeler qu'on est dans les années 60, que en parallèle de ça, il y a le Vietnam, qu'il y a toute une désillusion autour de la figure du héros, d'ailleurs, hein, qui va suivre les États-Unis jusque dans les années 70, et puis Watergate aussi a beaucoup compté, la démission du président Nixon. Et il faut rappeler que les comics ont une vitesse de production très rapide par rapport à la bande dessinée franco-belge et qui s'imbibe de tout ce qui se passe. Et quand il y a une catastrophe nationale, 2 mois et demi plus tard, vous avez une allusion à ça dans les comic books. C'est sans filtre. Ça fait parfois des conneries monumentales, mais parfois aussi c'est vraiment un des témoignages de l'époque. Et donc effectivement, il y a cette mélancolie qui correspond aussi à la mélancolie de la jeunesse dans les années 60. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que Marvel à ce moment-là explose et devient petit à petit le rival de DC, devient le géant qu'on connaît. Et pour la petite histoire, effectivement, la double page du surfeur d'argent par Jack Kirby est inédite. C'est une réinvention des origines du surfeur qui avait été produite vers 78 parce que un studio de cinéma voulait en tirer une comédie musicale. Alors je vous laisse imaginer quelle comédie musicale les tourments du surfeur d'argent auraient entraîné. Et à la même époque, il y avait un dessin animé des 4 Fantastiques. Le surfeur étant apparu dans les 4 Fantastiques, il était impossible de refaire son origine à l'identique. Et donc, ils ont l'idée de sortir cet album-là pour en faire une sorte de personnage autonome. Et ils ont inventé un autre personnage de soutien qu'on voit dans la page, qui est un personnage féminin, qui était un équivalent doré du surfeur d'argent, et qui s'appelait Ardina. Et le producteur, finalement, ne faisant pas le film, pouvant pas s'entendre avec Marvel, a transformé des bouts de son scénario pour en faire la comédie musicale qu'on connaît sous le nom de Xanadu avec Olivia Newton-John, qui aurait dû être normalement dans le film Silver Surfer. Et donc cette page-là, effectivement, elle n'a jamais été utilisée parce qu'elle prenait, je pense que c'est tout simplement une double page, et qu'elle est un petit peu gore aussi, il faut le dire, on voit clairement un peloton d'exécution, c'est ce qui a fait que, sans doute, qu'elle est restée inutilisée.
Mais on se souvient que le romancier américain Michael Chabon avait fait un roman où il imaginait que effectivement les personnages, les super-héroïques avaient comme origine lointaine le golem de Prague. Donc toujours des figures de défense, des figures de justicier, de vengeur. Ça va même au-delà de l'histoire du XXe siècle. Il y a une sorte de dimension à la fois rédemptrice et vengeresse dans le super-héros marvelien qui est à la fois là pour incarner une espèce de création de fantaisie extrême et en même temps d'être toujours accroché à l'histoire et de ne jamais être purement gratuit.
Je dirais même que plus que de la vengeance, le moteur, c'est la frustration. Et on voit ça, par exemple, chez Peter Parker et Spider-Man, donc on en reparlera peut-être plus loin dans l'exposition, mais le fait que ce type-là, c'est un descendant direct de la chose, il n'est pas récompensé pour son héroïsme. Et bien souvent, il est obligé de mettre en porte-à-faux ses intérêts personnels et son héroïsme. Et il finit l'épisode sans avoir pu déposer le chèque qu'il aurait garanti de pouvoir payer le loyer. Et il est toujours en train de se demander comment faire dans ce système-là et quel quelque part cette frustration-là, elle correspond aussi à la frustration de la plupart des dessinateurs qui étaient quand même assez sous-payés, il faut le dire. Et donc il y a vraiment un témoignage, il y a une sorte de transfert, de projection de la frustration des créateurs là-dessus, parce que vraiment dans les années 60, on parle d'une bande dessinée qui est pas reconnue. Ils auraient pu être vendeurs de chaussures, et alors s'il y a des amis de vendeurs de chaussures qui nous écoutent, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais métier, mais ils auraient pu avoir vraiment un métier anodin, être contrôleur dans le métro, et qu'ils auraient été beaucoup plus acceptés. Là, le fait d'être dessinateur, c'était pas un métier sérieux, c'est pas reconnu par la belle famille, et en plus c'était mal payé. Donc voilà.
On va maintenant continuer notre progression, passer dans la deuxième salle. Alors celle-là était sous l'invocation du rouge, du blanc, du gris, avec une tendance explosive et pulvérisée. Là, on est dans un monde vert, beaucoup moins, je dirais, rayonnant. Quelle est cette salle, Xavier Fournier ?
Ben, c'est la salle où on va dire qu'on la surnomme globalement la salle des Avengers. C'est les Avengers, après des années de recrutement, ils ont un peu digéré tout l'univers Marvel. Tout héros Marvel est par extension pratiquement ou potentiellement un membre des Avengers. Mais comme en plus au milieu de la salle, il y a une énorme statue de Hulk, le fait de transformer tout ça en salle verte, s'imposer un peu de soi-même, même si je dirais que bon, c'est pas forcément la couleur la plus subtile du coup, mais c'est assumé aussi. Et puis les Avengers, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont composés de héros qui, au demeurant, venaient tous d'autres séries. Et avaient tous, parmi les membres fondateurs, avaient tous leur propre magazine. Alors il y avait déjà des précédents dans la bande dessinée américaine, en particulier la Ligue de Justice. Mais chez Marvel, c'est la première fois que ça se produit. Et ça va être un outil, un navire amiral qui va permettre de faire que... C'est pas seulement un univers partagé, c'est un univers contributif. Les personnages s'auto-influencent, dévient la trajectoire des uns et des autres. Iron Man finira au bout de quelques années par construire un nouveau costume à Spider-Man. Et puis peut-être que le docteur Henry Pym va trouver un sérum qui aidera un autre héros à guérir d'une maladie. Et du coup, on rentre vraiment dans quelque chose qui est interconnecté. Là où la concurrence, à nouveau, si on fait la comparaison, ben, DC Comics, il y avait une sorte de baronnie. Les responsables éditoriaux avaient chacun leur petite grappe de personnages et ça se parlait pas entre eux. Donc Batman et Superman pouvaient se parler entre eux. Hawkman et Atom étaient gérés par le même éditeur, donc ça pouvait se parler entre eux. Flash et Green Lantern, ça pouvait se parler entre eux. Mais Flash ne pouvait pas parler directement à Superman, ou très peu. Parce que les relations interbureaux étaient compliquées. Chez Marvel, c'est le bon côté aussi de la chose. Tout était supervisé par Stan Lee, en tout cas dans les années 60. Et il y a qu'à le faire. Et la petite anecdote aussi sur la création des Avengers, c'est que Jack Kirby et Stan Lee en avaient parlé. C'était dans les tuyaux. Ils savaient qu'un jour ou l'autre, ils feraient une équipe fédératrice comme ça. Mais ils n'avaient pas prévu de la faire si vite. À l'époque, ils bossaient avec Bill Everett, le premier dessinateur de Marvel, sur la création d'un héros qui allait s'appeler Daredevil, qui est célèbre pour son costume rouge et sa cagoule à cornes. Si ce n'est que Bill Everett avait un gros problème de santé, d'alcool, pour tout dire, et qu'au moment où il est en train de dessiner Daredevil 1, il n'arrive pas à le finir. Il est obligé d'un peu de les planter. Et eux, ils se retrouvent avec du papier qui a été réservé auprès de l'imprimeur. Il faut absolument sortir un comic book dans les temps. Daredevil reste en chantier. Et ils se disent que le plus rapide, c'est produire une BD où ils connaissent déjà les personnages, puis ils perdront pas de temps à les créer. Et donc, Avengers numéro 1 est produit comme ça en une douzaine de jours en catastrophe pour assurer les délais d'imprimerie.
Il y a évidemment aussi une logique purement commerciale dans le fait de rassembler des héros et des arcs narratifs qui se rejoignent. C'est que pour bien suivre et tout comprendre, il faut quand même tout acheter. Mais c'est aussi un terrain d'expérimentation. En fait, c'est ça qui est assez passionnant. On le voit avec une des toutes premières planches de Hulk qui est montrée ici à l'époque où c'est encore un géant gris. Il n'a pas encore trouvé la couleur verte qui va contaminer toute cette salle. C'est que ça marche pas toujours. Parfois, il y a des héros qu'on crée qui n'auront peu de postérité. Je pense à The Cat, qui est un pendant Marvel de la Catwoman de DC. Et certains personnages qui, à l'époque, ne marcheront pas, puis beaucoup plus tard, simplement parce qu'on leur a changé un costume, comme la Veuve Noire, tout d'un coup, va devenir beaucoup plus probante. Donc il y a ce terrain un peu à la fois d'expérimentation, de jeu, de personnages qu'on va mettre dans un tiroir, puis tout d'un coup, quelqu'un va s'en souvenir, va le faire ressurgir, et c'est là qu'il va connaître sa gloire. Il suffira qu'un dessinateur jette son dévolu sur lui, comme John Byrne avec Wolverine, pour que tout d'un coup un personnage secondaire devienne un des personnages les plus populaires de l'univers. Rien n'est quand même prédéterminé dedans, c'est beaucoup d'essais.
Bah oui, et puis vous avez, même si la comparaison va peut-être vous surprendre, mais on peut aussi renvoyer ça au public des matchs de foot ou de rugby. Vous avez l'homme de plus qui compte. Et le lecteur, et à nouveau, il faut se souvenir que les comics sont très réactifs, le lecteur, il peut décider qu'il aime tel changement ou qu'il l'aime pas. Et il y a des changements de costumes ou de personnages ou des morts ou des mariages de personnages qui ont été répudiés, critiqués par les lecteurs et qui, en catastrophe, en l'espace de 4 ou 5 numéros, ont été défaits ou refaits parce que, clairement, le public avait voté dans une direction et il fallait y aller. Le truc, c'est que, dans le contexte de l'expo, pour moi, la couverture de The Cat dont vous parlez, c'est que l'une des couvertures qui symbolise le plus l'expo. Parce que des expositions sur Jack Kirby ou John Buscema, il y en a déjà eu à des degrés divers en France, il y en aura d'autres, je l'espère, je le souhaite, mais nous, avec l'espace et puis le spotlight qu'amène le musée sur l'expo, sur ce personnage-là, il me semblait intéressant de ne pas se contenter de mettre du Spider-Man, de ne pas se contenter de mettre du Iron Man, du Captain America, où les gens auraient coché sur leur liste les membres bien connus des Avengers, c'est tout allé, mais aussi de leur montrer qu'il y a aussi des personnages qui n'ont pas trouvé leur public, comme on dit. Et alors qu'en même temps, cette couverture, objectivement, je trouve qu'elle est superbe, et que même quand on est néophyte, eh ben, on comprend qu'elle est, enfin, il y a quelque chose de visuel qui peut se priver de commentaires. Donc, dans toutes les salles, on a quelques troisième couteaux, je dirais, qui permet là aussi de montrer la diversité des personnages.
Alors justement, Xavier Fournier, voilà une couverture exemplaire. Faites-nous-en une analyse, je dirais, technique sur la composition des les formes, les volumes, le mouvement, le décor.
Là aussi, c'est quelque chose qui respire l'esprit des comics. Vous avez cette héroïne qui s'appelle The Cat, qui a duré 3 ou 4 numéros simplement avant d'être transformée, régurgitée ailleurs dans l'univers Marvel. Eh ben, si vous prenez cette héroïne qui est tout à fait saillante, qui est tout à fait sympathique et séduisante, bah, son anatomie est complètement désordonnée. Elle est secouée par le super méchant qui s'attaque à elle. Et donc, si vous essayez de recomposer le personnage debout, vous vous rendez compte que ça marche pas. Elle est complètement désarticulée. Ce qui permet aussi de ressentir le mouvement que lui fait subir le méchant. Le méchant n'est pas ancré de la même manière. C'est-à-dire que l'ancrage du méchant est beaucoup plus lourd, beaucoup plus noir. On peut s'en rendre compte. Il y a des perspectives. Alors, en général, les perspectives de décor dans les comics, c'est assez fantaisiste aussi pour faire ressentir un effet de mouvement ou de pesanteur. Et puis, elle est signée John Romita Sr., qui était directeur artistique de Marvel dans les années 70. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans le cadre de cette exposition, il y a plein d'originaux qu'on a retrouvés. Et en comparant avec les versions parues, on se rend compte que c'est pas ce qui est paru. C'est-à-dire que souvent, John Romita Sr. a redessiné des visages entiers, même sur des dessins qui n'étaient pas de lui. Par exemple, sur cet épisode de Miss Marvel, le visage paru est entièrement reformulé par John Romita Sr. parce que ce n'était pas considéré comme étant le visage classique de l'héroïne. Où il y a des choses comme ça. Donc, ça permet là aussi de montrer un peu des raretés. Et je pense que des visiteurs qui viennent avec leur téléphone portable à la main ou une tablette, pourquoi pas, et qui comparent avec ce qui est finalement paru, peuvent jouer au jeu des 9 erreurs.
Oui, pour compléter ce que disait Xavier sur cette page. Cette page, elle se signale par une dynamique assez certaine, presque une chorégraphie dans la bagarre. Et c'est un point, une facette sur laquelle on a un peu insisté. Un petit peu plus loin dans l'exposition, c'est précisément la mise en scène des affrontements entre personnages qui sont totalement irréalistes. Là, on le voit bien, ils sont suspendus dans l'air, s'empoignant, encore une fois, dans un geste qui peut être assimilé à un geste soit du kung-fu, soit de la danse même. Et c'était caractéristique, là encore, c'est le lecteur qui a été marqué par cette lecture-là, que je suis, qui a été frappé particulièrement par ça, c'est-à-dire l'attention portée à la gestuelle, l'attention portée au corps, à la manière dont ceux-ci se situent dans leur espace, dans l'espace urbain, puisque la plupart des histoires qui nous sont présentées le sont dans des grandes villes. Là, on le voit sur cette page, on voit à l'arrière-plan les immeubles, on voit le gigantisme même de la ville et ce surplomb par nos deux personnages. Qui est donc, encore une fois, comme le disait Xavier, très caractéristique de ce travail graphique, visuel, qui accompagne la production Marvel.
Alors on évoquait la dimension, je dirais, concrète, quotidienne, historique, voire prosaïque, de Marvel, qui est au contact de la société et de l'histoire américaine. Alors un bon exemple, puisque là, vous avez reconstitué, je dirais, une façade d'immeuble, les fameux escaliers de service. Il y a même une sonorisation qui permet de se croire quelques minutes dans une rue de New York. Et c'est bien évidemment Spider-Man, Xavier Fournier.
Alors c'est Spider-Man, mais aussi sur un autre pan de mur juste en face, et on a beaucoup de Daredevil et de Moon Knight. C'est principalement la pièce Spider-Man, on va dire, mais par extension celle de tous les héros urbains, tous les justiciers urbains de New York, qui effectivement représentent cette ville en commun, quoi, qui est réinventée par Marvel, qui est appropriée par Marvel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reste une New York cohérente. De série en série, malgré les auteurs différents, on reconnaît vraiment la New York de Marvel.
Les murs dans lesquels, sur lesquels pardon, on retrouve les planches, c'est un mur qui aurait pu être le mur d'un immeuble typiquement new-yorkais, graffité. Alors évidemment, les graffitis ici font plutôt allusion à Spider-Man, mais comme le dit Xavier, c'est la dimension de vie qui surgit du décor, qui était intéressant. Après, on a quand même, comme pour la salle... La première salle très graphique, on est encore et toujours dans un univers qui combine les deux, le graphisme et puis une espèce de réalité dans laquelle on cherche à s'immerger.
Le réalisme même de la façon dont est dépeinte New York, que ce soit chez Spider-Man, chez Daredevil, donne, et je peux en témoigner, à celui qui, gamin, a lu ça et va aller pour la première fois à New York, un sentiment de familiarité tout à fait inouï. Je me souviens du Rockefeller Center dépeint dans un épisode de Spider-Man qui tout d'un coup existait pour de vrai quand le visitait. Et ce que pose aussi cette salle et la salle précédente, c'est la question de la diffusion de Marvel à l'étranger. On a des éditions allemandes, espagnoles et autres, et évidemment, les éditions françaises. Cette exposition est dédiée à Claude Vistel, qui était l'éditrice de Marvel aux éditions Lug. Et alors, on parlait des retouches que pouvait faire John Romita. Il y a eu de la retouche, beaucoup, sur les comics Marvel en France pour complaire à la commission de la loi de 49. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu dédier cette exposition à Claude Vistel ? Est-ce que c'était pour justement rendre hommage à votre propre découverte dans ces fascicules, on les nomme, hein, Strange et autres, édités par elle aux éditions Lug de Lyon, comme le nom l'indique ?
C'est Xavier qui a proposé qu'on place cette exposition sous la tutelle sous le souvenir de Claude Vistel. Effectivement, la plupart des lecteurs, des passionnés de cet univers... En France, j'entends, l'ont découvert à travers des revues qui, avec le temps, sont devenues emblématiques, sont devenues des Madeleine de Proust, littéralement. Donc, je citerai Marvel, Fantasque, Strange, Spécial Strange, etc. Et même s'il y avait eu des tentatives d'acclimatation du super-héros en France à travers quelques publications antérieures, le fait est que le travail qu'elle a mené pour publier, éditer dans des formats qui étaient tout à fait originaux, qui étaient même qualitativement beaucoup plus intéressants, supérieurs à ce que les Américains éditaient, a incontestablement marqué les débuts du comics en France. Donc pour tout ce travail qu'elle a mené, pour cette intelligence qui était la sienne d'aller chercher des histoires qui, au fond, peut-être n'intéressaient pas beaucoup de monde dans le milieu éditorial à cette époque, il semblait inévitable que cette exposition lui soit dédiée.
Bon, en gros, dans les grandes lignes, tout vous a été révélé. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, Marvel sera arrivé en France. Alors, dans les années 30 et 40, ça risquait pas, parce qu'il y avait un bête problème d'occupation par les Allemands qui a fait que Captain America risquait pas d'être traduit à l'époque. Et dans les années 60, d'une manière ou d'une autre, fin des années 60 ou dans les années 70, ça sera arrivé en France. Si ce n'est que, effectivement, quand on regarde dans les décennies précédentes, vous avez des sorties isolées, Batman, Superman, le fantôme de la jungle, qui sortent comme ça, mais il n'y a rien d'organisé, et surtout on ne revendique pas d'être une BD étrangère, parce qu'il y a tout un public que ça ferait sortir de ses gonds. Et d'un seul coup, quand Lug reprend Marvel, d'abord ils reprennent plusieurs séries, ils font des revues entières consacrées à ça, donc il y a aussi cette notion d'univers qui arrive massivement, c'est régulier, chaque 5 du mois, les jeunes lecteurs savent que c'est le 5 et pas le 6 ou le 4. et c'est traduit avec régularité et ça change les choses. Et surtout, Strange, par exemple, devient le journal des super-héros. Ça ne se serait pas revendiqué avant. Donc ça va être un sentiment fédérateur, une prise de conscience pour un public qui, avant, pouvait lire des aventures de Superman mal traduites. Les gens qui ont lu les premières traductions de Superman, c'était en Spirou. Il s'appelait Mark Costal, Hercule moderne. Allez savoir que c'est un héros américain, c'est compliqué. Hein. Donc là, d'un seul coup, on peut plus se voiler la face. Ça se passe à New York et c'est traduit. Et on explique que ce sont les super-héros américains qui arrivent. Donc vraiment, les choix de Claude Vistel, ils ont permis d'imposer Marvel et pas de façon cachée.
Alors, petite question, messieurs. Voilà une porte. Parce que vous proposez des portes aux visiteurs. Alors, on va ouvrir la porte. Et que va-t-on voir derrière la porte? Eh bien, des super-héros, bien évidemment. Mais pourquoi cette scénographie avec des portes qui s'ouvrent, qui grincent légèrement? Il y a une autre porte à côté qui cache un empilement de crânes.
Eh bien, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'entre-temps, on a changé de pièce une nouvelle fois.
Voilà, bien sûr.
Et que là, on s'était posé la question de savoir comment signaliser un petit peu l'ambiance des X-Men qui est eue dans un manoir école. Et donc, les vieilles portes évoquent un peu ce manoir, tout en sachant qu'il y a aussi des statuettes sous plexiglas en vitrine qui ont un côté un peu plus moderne dans leur agencement et qui avaient il y avait un peu ce mélange entre le côté vieille bâtisse des montants de portes. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi sur les cadres des textes qui ont les mêmes montants. Et puis, ce côté un peu plus technique avec les vitrines, et il nous a semblé que ça, à peu de frais, ça évoquait un petit peu l'univers des X-Men.
Oui, les X-Men, on peut parier que dans les 10-20 ans prochains, ça va être les nouveaux Avengers. Maintenant que la maison Disney a réuni tout le monde et a pu racheter les droits. Mais c'est vrai que ça montre bien l'effet accumulatif qu'il peut y avoir aussi dans l'univers Marvel. C'est-à-dire qu'il y a une première génération d'X-Men, puis on va les remplacer par une deuxième. Puis comme ça marche, on va créer la classe d'en dessous. Et en fait, chaque année, c'est pas chaque année, mais ça pourrait, il y a une nouvelle classe qui arrive, qui va suivre le même chemin de grandir et de devoir être fatalement remplacée par des petits jeunes. Comment est-ce que fait Marvel pour réguler cette accumulation permanente qui, à un moment ou à un autre, pourrait la déborder?
Alors, il y a un truc sur les trois grandes équipes de Marvel, et on vient de les passer en revue, finalement. Comme il s'agissait, après le succès des 4 Fantastiques, à chaque fois de trouver une valeur ajoutée pour justifier chaque nouvelle équipe majeure, quand on refait le film, on se rend compte qu'on a les Fantastiques qui sont une famille, la première famille de l'univers Marvel, avec le Mister Fantastique qui est marié à la femme invisible, dont la Torche Humaine est le frère, puis vous avez le meilleur ami de la famille qui est la Chose. Grâce aux Avengers, on a des relations de travail. Les Avengers, c'est une fédération de super-héros qui se retrouvent pour travailler ensemble. Et puis, les X-Men, vous avez l'école. Et du coup, ce sont trois grands types d'interactions que les adolescents pouvaient comprendre assez facilement en trouvant une diversité à chaque fois. Pour ce qui est de grandir, au tout début, dans les années 60, les X-Men, on sent que Stan Lee et Jack Kirby voulaient que les mutants restent quelque chose d'exceptionnel. Donc vous avez 4 ou 5 mutants identifiés qui forment le noyau dur des X-Men, 4 ou 5 mauvais mutants en face, et puis le reste du temps, ce sont d'autres menaces, des voleurs de banque, des extraterrestres, des robots qui arrivent, et voilà. Et c'est à un moment où les X-Men ne marchent pas, ou très peu. Et ils vont quand même se réinventer dans les années 70, parce que comme il n'y a rien à perdre et que cette série ne marche pas, on l'a suspendue. Au moment de la relancer, on décide qu'on va insuffler plein de nouveaux personnages qui auront tous une nationalité différente, parce que ça aidera la série à trouver son public sur les autres marchés à travers le monde. Et là, c'est un gros succès, un succès énorme. Et donc, par la suite, les mutants sont plus du tout quelque chose de rare. D'ailleurs, Marvel, à une époque, se passera même d'explications. À chaque fois qu'il faudra introduire un nouveau personnage, il suffira de dire que c'est un mutant. Mais le truc, effectivement, c'est que peut-être maintenant, il y a une masse critique. Au fur et à mesure que des nouveaux auteurs ont réinventé les X-Men, ont secoué les rangs, ont créé une nouvelle classe qui chacune a sa série, vous avez des dizaines et des dizaines de X-Men. Et ça peut être un point d'entrée un petit peu déstabilisant. Maintenant, moi, je compare souvent ça. D'ailleurs, on peut faire ce reproche d'ailleurs à tout l'univers Marvel qui a bien avancé en quelques décennies, avec plein de Avengers, plein de personnages secondaires, plein d'ennemis de Spider-Man. Mais moi, je compare ça souvent à la mythologie. Si vous êtes comme moi, quand vous aviez 12 ans, vous avez offert pour une fête ou quelque chose comme ça, un dictionnaire de mythologie. Ben, la mythologie, c'est pas évident de rentrer là-dedans. Et si vous tombez sur Jason et les Argonautes, que vous connaissez pas qui est Hercule et compagnie, vous vous posez la question. Comme on est au bord de la plage, effectivement, quand on met juste le doigt de pied dedans, elle est froide. Faut y aller à fond et commencer à s'orienter dedans. Si vous prenez un dictionnaire de mythologie, vous commencez par Achille, mais vous attendrez la dernière page à la fin pour savoir qui est ce Zeus dont on vous a parlé pendant tout le long du truc, alors que c'est un personnage très important. Là, c'était même un jeu. Moi, je pense que quand je lisais Strange et que les séries étaient traduites parfois avec des années d'écart et pas toujours dans le même ordre, et puis qu'en plus, il y avait certaines séries qui n'étaient pas encore traduites, donc il manquait des pièces du puzzle, c'était assez... C'était une sorte de pistage. On recollait les morceaux. On se disait, mais alors celui-là, il a référence au fait qu'il a fait partie de telle équipe dont j'ai jamais entendu parler. Elle est où, cette équipe? Et donc, c'est quelque chose d'assez prenant. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous disiez justement que l'univers Marvel, il s'est pas non plus monté par simple amour des univers. Il s'agit de fidéliser le lecteur et de le pousser à acheter un maximum de séries. Mais il y a un côté addictif là-dedans. Il y a un côté de, je les veux tous. Et donc, recoller les morceaux, c'est ce qui fait un petit peu le charme des univers collaboratifs comme ça, et je pense aussi que c'est ce qui peut jouer sur d'autres supports. Maintenant, on voit ça arriver sur d'autres supports que la bande dessinée. On veut recoller les morceaux pour un peu comprendre. Il y a plein de petites pistes cachées à essayer de découvrir.
Merci Xavier Fournier, merci Jean-Philippe Partin pour cette visite. L'exposition est visible.
Alors, juste un petit détail quand même, parce qu'on a parlé de la scénographie, et ils ont été super, ils ont vraiment été acrobatiques, et on a oublié de les citer. Ils s'appellent les Charons, c'est un atelier Saint-Étienne, et ils ont vraiment été impeccables sur tout le montage de cette expo.
Merci pour cette citation. La date ultime, donc, de la date de...
C'est le 4 mai 2025, donc il y a du temps, et pour ceux d'ailleurs qui auraient déjà vu l'exposition, ils sont évidemment invités à la revoir, puisque on va... C'est le prix à payer pour préserver les dessins quand ils sont exposés. On va donc procéder à ce qu'on appelle des rotations. Autrement dit, on va remplacer certains des originaux, une partie des originaux, par d'autres originaux. Ce qui veut dire que ceux qui ont déjà vu l'exposition en verront une nouvelle, et puis ceux qui viendront la voir verront une exposition de grande qualité. Ça ne changera pas la qualité de l'exposition, le changement des œuvres.
Merci à tous deux.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, merci à vous Xavier Fournier et Jean-Philippe Martin de nous avoir éclairés et fait découvrir de manière aussi érudite l'univers Marvel. La prise de son était signée Laurent Polleret, et ça s'entend. Et puis merci infiniment donc à Marina Sicanto et à Fedelme chez Guillaume d'avoir organisé, rendu possible de façon exquise ce déplacement Angoulême. Et merci Antoine Guillaume.
Mais c'est toujours avec plaisir
d'être là pour assurer ce genre d'émission Mauvais Genre. Chronique dans Mauvais Genre, deuxième temps d'émission avec vous Antoine Guillot. Alors effectivement, on va pas être déçu puisque ça commence très fort.
Ah oui, je vous promets des sorcières orgiaques, des singes érotomanes et même une tempête de merde.
Et pas d'erreur, c'est Mauvais Genre.
Alors, on commence par sorcières. Les sorcières, ce sont des sorcières argentines. C'est le deuxième livre de Solé Otero. Solé Otero, elle avait, il y a 2 ans, été très remarquée avec son autobiographie que Naphtaline, qui remontait l'histoire de sa famille argentine jusqu'à l'Italie et à Mussolini. Donc, autre figure du mal, la sorcière. Enfin, figure très, très ambivalente et très passionnante qu'elle raconte sur 3 siècles. Ça commence au milieu du 18e siècle. Un groupe de femmes étranges accompagnées d'un bouc souffreteux et méphitique arrive sur un bateau en Argentine et puis elles repartent sur une barque avec un enfant qu'elles ont kidnappé sur ce bateau. Et ces figures, on va les voir traverser les siècles sans que le livre ne révèle vraiment qui elles sont, puisqu'ils tournent autour en permanence, le tout sous la forme de 9 nouvelles qui vont raconter aussi bien les problèmes d'érection d'un quadragénaire qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, comment les petites filles dans les couvents, les institutions catholique argentine était un peu maltraitée et à qui on reprochait d'exciter ces pauvres prêtres et donc c'était la preuve qu'elle était les proies du démon. Vous avez une femme qui est recluse chez elle et qui n'ose jamais sortir et qui est victime d'un étrange vétérinaire intrusif.
Enfin, c'est peut-être Silvina Ocampo.
Oui, alors tout ça est très étrange et raconte en fait ces figures qui sont, vous savez combien la sorcière maintenant réhabilité, Céline Duchesnay y est pour beaucoup, mais elles sont montrées ici comme à la fois des figures émancipatrices, protectrices des femmes et qui en même temps les exploitent pour leur propre survie à elles, puisque si elles traversent les siècles, c'est qu'elles doivent bien trouver quelque chose, quelque part, qui les aide à survivre. Alors les hommes dedans sont complètement laminés, utilisés pour ce qu'ils peuvent produire et abandonner ensuite. C'est surtout passionnant ce livre parce qu'il est d'une inventivité graphique permanente. Je vous ai dit que c'était 9 nouvelles. Mais ce sont 9 façons différentes de raconter, tout en gardant ce graphisme très propre à Solé Otero avec ses corps très massifs et ses petites têtes. On dirait rapidement, que c'est du Botero, en bande dessinée, mais c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'y retrouve des traces de Fumure. Le bouc pourrait être dessiné par Fumure. C'est surtout une écriture extrêmement originale qui utilise toutes les possibilités du langage de la bande dessinée. On a l'impression qu'elle a intériorisé 100 ans d'expérimentation graphique qui irait de Winsor McCay à Chris Ware, et elle utilise tout ça pour réinventer en fait en permanence son langage. Donc c'est un livre époustouflant qui doit faire près de 400 pages, dont on n'a pas fini de faire le tour, parce que à force de tourner autour de ces sorcières, le lecteur est obligé de recomposer un puzzle mental et historique et politique et sur toutes les questions qui nous agitent aujourd'hui. C'est un très très grand livre, c'est un des grands livres de cette rentrée, Walicho de Solé Otero. C'est chez Ça et Là, et c'est extrêmement bien traduit l'espagnol par Anne Plantagenet.
Argentin, donc, bien sûr. Anne Plantagenet étant une des grandes spécialistes. Il faudra qu'on demande à Mariana Henriquez ce qu'elle pense de Solé Otero.
D'ailleurs, Otero a écrit ce livre, elle a dessiné à la Maison des Auteurs à Angoulême. Comme quoi, vous voyez, on ne sort jamais d'Angoulême.
Parfait. Deuxième chronique avec Barbarone ou Barbarone.
Alors avec 2 livres en fait du même auteur, c'est Gippi, grand auteur italien très profus, qui avait fait un livre qui avait beaucoup marqué il y a quelques années, qui s'appelait La Terre des Hommes, hein, je crois, qu'il avait eu le grand prix de
post-apocalyptique
avec des cannibales, enfin tout ce qu'on aime.
Lacustre.
Et là, alors Stacy, je vais en parler un instant, c'est certainement son plus grand livre depuis La Terre des Hommes, mais il s'est accordé d'abord une récréation avec ce livre extrêmement bien édité par les Rêveurs, avec cette couverture de comics pulp, donc on aurait pu le voir aussi fait par Marvel dans leur période expérimentatrice. Alors Barbarone, le nom évidemment nous laisse à penser que c'est une version masculine et augmentée de Barbarella. Alors Barbarone, c'est le gros barbare. Alors en termes de gros barbare, on a plutôt un être assez flué. Imaginez un Valérian, le Valérian de Christin et Mézières, devenu un peu hippiche, très, très chevelu, l'air un peu hagard, qui va se retrouver perdu sur une planète où, effectivement, il est très content de voir qu'il y a des singes, mais les singes en veulent peut-être à autre chose qu'à sa conversation. Ce sont les singes...
Le côté Buzelli, un peu.
Voilà, les singes zérotomanes du titre. Et il va être sauvé par une sorte de géant. Imaginez un dinosaure à la Casimir, vous voyez, un monstre géant. gentil,
un monstre gentil
et très sentimental qui s'appelle Gogo. Et suite à des péripéties complètement improvisées, parce qu'en fait ce livre, c'est le bonheur pour JP de l'improvisation. On n'est pas dans le garage hermétique de Moebius, mais presque par moment. Il va se retrouver en prison et rencontrer une flaque de pisse dans le coin de sa cellule.
Pitié.
Et le personnage, en fait, s'appelle Flaque de Pisse et c'est un être qui est capable de prendre le contrôle de l'esprit des gens et qui a surtout cette particularité d'être ordurier en permanence. C'est-à-dire que dès qu'il s'adresse à quelqu'un, c'est pour l'insulter avec des insultes très fleuries. Et on peut prendre ce livre en fait comme une sorte d'autoportrait éclaté de JP, c'est-à-dire à la fois le garçon un peu hagard, le géant un peu bené et l'ordure qui se cache en lui.
Et
l'ordure
et qui se cache en lui, Ottoman, oui.
Il l'explore dans Stacy. Stacy, alors là c'est le grand livre, alors là c'est pas du tout improvisé, c'est une construction narrative qui vous encerne dans des cercles avec un personnage qui tourne en rond en permanence, c'est inspiré à JP par une shitstorm qui lui arrivait, c'est la tempête numérique, la tempête de merde qui arrive quand vous lâchez un mot malheureux dans le monde d'Instagram et où tout d'un coup, tout le monde vous tombe dessus. Et c'est ce qui arrive au personnage de son livre, qui est un romancier à succès qui se prostitue son talent à écrire des séries idiotes pour un Netflix ou autre plateforme et qui, à cause d'un mot malheureux dans une interview télévisée où il va raconter son fantasme. En fait, le personnage lui demande, voilà, François Julien, vous me demandez, à quoi rêvez-vous? Et là, tout d'un coup, je vais vous répondre, eh bien, c'est étrange, j'ai rêvé cette nuit que je garais ma camionnette blanche dans la rue, dépassant une jeune fille, et que j'enlevais cette jeune fille pour la séquestrer. Et cette jeune fille s'appelle Stacy, et Stacy était bonne. Et ce Stacy était bonne, ce sont les trois mots qui vont transformer la vie de ce personnage dans un enfer absolu. Et parce que, évidemment, c'est le genre de choses qu'il faut pas dire. Et ce que fait JP, c'est qu'il explore exactement ce qu'il faut pas dire. C'est-à-dire que ce personnage, ayant été rayé de la carte sociale dans son petit milieu d'écrivaillons de séries télévisées, d'ailleurs la satire de ce milieu-là est extraordinaire, et ben qu'est-ce qu'il fait après? Ben, il va aller enlever une jeune fille et la séquestrer dans sa cave. Ou peut-être pas, peut-être que c'est juste dans sa tête, et s'ensuit à partir de ça un dialogue avec son démon intérieur qui lui ressemble. D'ailleurs, il a la même tête que Barbarone et le héros, et quand il enlève sa barbe, c'est le démon. On ne saura jamais qui parle, dans quelle boucle monstrueusement perverse de son esprit on se trouve, et on est complètement assommé à lire ce livre, mais assommé dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est pantois de tout ce qu'arrive à travailler JP et de creuser de noirceur de l'âme humaine. Voilà, c'est un très très grand livre, ce Stacy de JP, ça c'est chez Futuropolis, Barbarone c'est chez Les Rêveurs, et c'est la même traductrice, Hélène Doniol-Renaud, qui a traduit, dans tous les cas, Les Folies de JP.
Merci Antoine Guillot pour ces trois propositions auxquelles je vais joindre trois propositions miennes, des revues. En effet, on connaît à Mauvais Genre et depuis très longtemps la revue Le Visage Vert, et je signale le numéro 34 daté de mars 2024 qui contient un article plus une étude extrêmement érudite et très illustrée de Jacques Baudoux et Philippe Murat sur la naissance de la science-fiction et du milieu science-fictif français avec Boris Vian, avec France Roche, avec Raymond Queneau. C'est un très très bon article, je pense que c'est une étude qui fera date. Je signale le dernier numéro de la revue L'Alpe, Crime et Châtiment, édité par Glénat, sur la vie criminelle en milieu alpestre. Et puis on en reparlera, la revue Chimère, revue des meilleurs mondes imaginaires, le numéro 1 est paru, dirigé donc par William Blanc et surtout Anne Besson. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Timothée Hubert, Claire Poinsignon, Claire Martin-Dugard, Antoine Guillot et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain où nous serons en compagnie de la phénoménale Rebecca Warrior, amenée par Céline Duchesnay, dont d'ici là vous écoutez France Culture. Et surtout ne ratez pas cette nuit la nuit Pau Vert organisée par Alban Penaranda et les archives de France Culture. France Culture, les fictions.